DW, le journal. Nafisa Amadou.
Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la radio internationale d'Allemagne. Dans l'actualité de ce jeudi 27 juin 2019, le navire humanitaire Sea-Watch toujours bloqué en face du port de l'île de Lampedusa. Le ministre italien de l'Intérieur s'oppose à tout débarquement des 42 migrants à bord. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi, hospitalisé ce matin à Tunis, il a été victime d'un grave malaise selon la présidence. Et puis en Mauritanie, les 4 candidats de l'opposition dénoncent un hold-up électoral. Ils accusent le pouvoir d'imposer un état de siège. À l'international, il sera question du sommet du G20 qui démarre demain à Osaka, au Japon. Mais tout de suite, un tour d'horizon de l'actualité internationale. Ce soir, c'est avec Sandrine Blanchard.
Bonsoir. Deux attentats suicides ont eu lieu à Tunis. Un policier est décédé des suites de ses blessures. Un autre policier et au moins 3 civils ont été blessés. Par ailleurs, vous le disiez, l'état de santé du président tunisien Béji Caïd Essebsi est préoccupant. Le chef de l'État a été victime d'un malaise. Âgé de 92 ans, il a été hospitalisé. Son état serait critique mais stable, d'après les communiqués de la présidence. Nous y reviendrons dans le courant de ce journal.
En Allemagne, l'enquête progresse dans l'affaire de l'assassinat de Walter Lübcke.
Ce responsable régional a été assassiné par un certain Stefan E, qui a reconnu les faits. Il s'agit d'un militant d'extrême droite. Les enquêteurs ont trouvé sur le site où il travaille des armes qui lui auraient appartenu. 2 autres personnes ont été interpellées. Elles auraient permis à l'assassin de se procurer ses armes. Les services de renseignement allemands ont par ailleurs indiqué avoir recensé 24 100 militants d'extrême droite actifs l'année dernière, soit une centaine de plus qu'en 2017. Environ la moitié d'entre eux sont soupçonnés d'être prêts à recourir à la violence. Le ministre de l'Intérieur fait part de son inquiétude du fait du nombre important d'armes qui circulent dans ce milieu.
Sandrine, plus de 5000 migrants ont été rapatriés depuis la Libye en moins de 6 mois.
Oui, c'est l'Organisation internationale pour les migrations qui dresse ainsi un premier bilan de son programme de retour volontaire. Il s'adresse aux migrants qui tentent de rejoindre l'Europe par la Méditerranée, mais qui restent coincés en Libye, où ils vivent dans des conditions catastrophiques. Les migrants rapatriés étaient originaires de 30 pays d'Afrique et d'Asie.
Arrestation en Allemagne d'un Bosniaque qui serait impliqué dans les attentats de novembre 2015 à Paris.
L'homme de 39 ans a été appréhendé il y a une semaine à Dresde. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, soupçonné de soutien à une organisation terroriste dans le cadre de l'enquête sur les attaques du Bataclan notamment. Il devrait bientôt être extradé vers la Belgique qui avait émis le mandat.
La chancelière allemande prise d'une nouvelle crise de tremblement en public.
Angela Merkel a tenté de rassurer après cette deuxième crise en moins de 10 jours. Ses services évoquent des problèmes d'hydratation liés à la chaleur. La chancelière a pu partir au Japon où elle va participer au sommet du G20 d'Osaka. Dimanche, elle doit se rendre au sommet européen où doit être discuté notamment le choix du président de la Commission européenne.
Mauvaise nouvelle pour le personnel de chez Ford.
Le constructeur automobile va supprimer 12 000 emplois en Europe d'ici la fin de l'année prochaine. 6 usines seront fermées en Russie, en France et au Pays de Galles. À Sarre-Louis, en Allemagne, des postes ont déjà été supprimés, ainsi qu'en Espagne. La direction espère ainsi augmenter la rentabilité de l'entreprise. En bref, la rapporteuse des Nations Unies sur la violence envers les femmes appelle à une nouvelle approche mondiale pour éradiquer la violence envers les femmes et les filles. Elle préconise notamment l'établissement d'une plateforme qui puisse réunir toutes les initiatives nationales et régionales sur la question, ainsi que les mouvements qui émergent dans la société civile, comme les hashtags MeToo ou Balance ton porc. Le nouveau maire d'Istanbul vient de prendre officiellement ses fonctions. Ekrem İmamoğlu, membre du Parti social-démocrate d'opposition CHP, avait battu à 2 reprises le candidat de l'AKP, le parti du président Recep Tayyip Erdogan. Et puis pour finir, un fait divers en Espagne. Une femme a engagé son beau-fils pour assassiner son compagnon. Mais le meurtre n'arrivait pas, alors la femme est allée se plaindre avec sa fille au commissariat. Elle voulait dénoncer les manquements du tueur à gages et l'accuser d'escroquerie. Tous les 3 ont été arrêtés, la commanditaire, sa fille et le beau-fils.
Quelle histoire! Sandrine Blanchard pour les dernières nouvelles du monde. Il est 17h, bientôt 5 minutes en temps universel. DW Le bras de fer se poursuit donc autour du navire Sea-Watch 3, bloqué depuis hier en face du port de l'île de Lampedusa. Le navire humanitaire qui est entré dans les eaux territoriales italiennes sans autorisation attend toujours une solution pour les 42 migrants bloqués à son bord depuis 15 jours. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, s'oppose à tout débarquement des migrants. Emma Guay pour les précisions.
Nous avons attendu une nuit. Nous ne pouvons pas attendre plus. On ne peut pas jouer avec le désespoir de personnes dans le besoin. C'est le message lancé ce jeudi matin par l'ONG Sea-Watch. Le navire humanitaire est bloqué depuis hier en face du port de l'île de Lampedusa, après avoir forcé le blocus des eaux territoriales italiennes pour tenter de débarquer sur l'île les 42 migrants. Carola Racket est la capitaine allemande du Sea-Watch 3.
Hier, nous sommes entrés dans les eaux territoriales italiennes sans l'autorisation des autorités. Nous avons déclaré l'état de nécessité parce que la situation psychologique et humanitaire s'est tellement aggravée que je ne peux plus garantir la sécurité des personnes sauvées à bord de mon navire. Maintenant, nous sommes au large de l'île de Lampedusa. Les autorités ont été à bord à deux reprises, mais elles n'ont donné aucune indication claire quant à la date à laquelle les personnes sauvées seront débarquées. Nous attendons une délégation de parlementaires italiens et nous espérons que cela créera l'élan nécessaire pour enfin débarquer tout le monde et les emmener dans un lieu sûr.
À Bruxelles, le commissaire européen chargé des migrations, Dimitris Avramopoulos, a annoncé que plusieurs pays européens étaient prêts à participer à une répartition de ces migrants, mais qu'une solution ne serait possible qu'une fois les personnes débarquées. Une proposition rejetée par le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini. Dans une vidéo publiée sur Facebook, il dénonce un jeu politique de Sea-Watch, mais aussi l'indifférence affichée par les Pays-Bas, pays dont le navire bat pavillon, et l'Allemagne, le pays de l'ONG.
Ceux qui ignorent la loi me répondront. Ceux qui font des erreurs paieront. Je ne parle pas seulement de ce capitaine arrogant qui fait de la politique sur le dos de quelques dizaines de migrants. Existe-t-il maintenant un gouvernement aux Pays-Bas? Il devrait se réveiller. Existe-t-il une commission européenne? Elle devrait se réveiller.
La jeune capitaine et les responsables de Sea-Watch risquent des poursuites pour aide à l'immigration clandestine. Un délit passible d'une amende de 50 000 euros et de la saisie du navire.
50 000 euros pour une amende et pour payer les frais de justice. L'ONG Sea-Watch a lancé hier sur Facebook un appel aux dons et déjà plus de 113 000 euros ont été récoltés. Je le disais dans le sommaire, c'est une journée chargée qui s'achève en Tunisie. Le pays a encore été touché par un double attentat suicide. Parallèlement, la présidence annonce la nouvelle hospitalisation du président Béji Caïd Essebsi qui serait dans un état critique. Tous ces événements surviennent à quelques mois d'élections législatives et présidentielles qui s'annoncent très disputées. On fait le point avec vous, Fréjus Kenom.
D'après des informations émanant de la présidence tunisienne, le président Béji Caïd Essebsi, qui a été victime de malaise qualifié de grave, serait actuellement dans un état stable. Il reçoit les soins nécessaires, a ajouté le premier ministre Youssef Chahed, qui a notamment mis en garde contre les rumeurs. En effet, rapidement, les réseaux sociaux se sont enflammés, certains messages affirmant que le président était mort. Béji Caïd Essebsi, âgé de 92 ans, avait déjà été hospitalisé il y a quelques jours. Mounia Alani Ben Halima, blogueuse tunisienne.
Nous avons élu un président de la République très très âgé. Maintenant, nous serons toujours prêts pour appliquer la Constitution.
Et en cas de vacance du pouvoir, la Constitution prévoit que le président du Parlement assure son intérim en attendant des élections. Mais la situation ne manque pas d'inquiéter. Le pays se prépare à des élections législatives qui auront lieu en novembre et une présidentielle en octobre. Et vous l'avez dit, Nafissa, cette même journée a été marquée par un double attentat suicide visant essentiellement la police et les services antiterroristes. Touchée par une série d'attaques terroristes en 2015, la Tunisie est sous état d'urgence. Une mesure qui sera sans doute encore renouvelé après son échéance le mois prochain. Tarek Chahabouni, homme politique et membre du bureau politique du parti Al-Badil.
Cette journée signifie certainement un test pour la Tunisie, pour ses institutions et pour sa population. Il s'agit d'un attentat grave visant à déstabiliser le pays à la veille de la saison touristique. Ce qui est aussi remarquable, c'est le calme de la population.
Voilà, en effet, les témoignages que nous avons reçus depuis ce matin font état d'une situation calme à Tunis. Les autorités tentent aussi, de leur côté, de rassurer la population.
Merci Fréjus Kenom. La Mauritanie a présent les quatre candidats de l'opposition qui contestent la victoire à la présidentielle de l'ancien chef d'état-major Mohamed Ould Ghazouani, accuse les autorités de dresser les communautés les unes contre les autres pour couvrir ce qu'ils appellent un hold-up électoral. Ils accusent également le pouvoir d'imposer un État à deux sièges. C'est ce qu'explique du moins Hamidou Babacane, candidat de la coalition Vivre Ensemble à la présidentielle. Il est au micro de Kossivi Tiassou.
À tous les coins de rue, vous voyez évidemment des militaires, des gardes qui sont postés. Je ne parle pas maintenant des saccages de nos sièges de campagne qui a eu lieu également. Alors que nos soutiens étaient dans les sièges de campagne, ils ont été agressés, ils ont été molestés, il y a eu beaucoup de blessés qui sont encore à l'hôpital.
Et vous faites partie des trois opposants qui n'ont pas voulu appeler leurs militants à la manifestation non autorisée d'aujourd'hui. Et cela veut dire que ces dispositifs et la fermeté des autorités vous ont finalement fait changer d'avis?
Non, nous avons décidé d'annuler cette marche par responsabilité, parce que nous ne voulons pas ajouter d'autres blessés, peut-être des morts, à des gens qui sont déjà blessés. Nous voulons donner également une chance à l'apaisement pour éviter évidemment que des innocents également soient victimes. Et voilà pourquoi nous avons décidé d'annuler cette marche. Mais annuler la marche ne veut pas dire renoncer à nos droits légitimes de manifestation.
La victoire de Mohamed Ould Ghazouani doit être encore confirmée par le Conseil constitutionnel. Et le pouvoir vous demande de faire confiance à la justice. Est-ce que vous faites confiance à la justice mauritanienne?
Mais vous le savez que c'est la justice qui a été toujours inféodée au pouvoir exécutif. Et à partir de ce moment-là, elle ne dira que ce que le pouvoir exécutif voudra qu'elle dise.
Même si certains ont déposé des recours, vous dites ne pas faire confiance à la justice mauritanienne. Et qu'allez-vous faire maintenant?
Oui, dans tous les cas, j'ai dit bien sûr que nous ne faisons pas confiance à cette justice. Mais nous savons également que nous serions accusés de n'avoir pas tenté, de n'avoir pas déposé un recours si nous ne l'avions pas fait. Au moins, nous voulons enlever cet argument. Mais encore une fois, c'est sans illusion. Maintenant, vous me dites qu'est-ce que nous allons faire? Mais nous allons continuer à utiliser les moyens de lutte. Les luttes démocratiques, nous allons continuer à élaborer nos stratégies également de rejet de ces résultats.
C'était Hamidou Babacane, candidat de la coalition Vivre Ensemble à la présidentielle. Il a obtenu, je vous le rappelle, 8,71% des voix. La victoire de l'ancien ministre de la Défense et ex-état-major des armées doit encore être confirmée par le Conseil constitutionnel mauritanien. Deux des candidats ont déposé des recours en annulation du scrutin. Le scrutin du 22 juin doit marquer la première transition démocratique entre deux présidents élus dans ce pays, déjà secoué par de nombreux coups d'État de 1978 à 2008, date du putsch qui a porté Mohamed Ould Abdelaziz au pouvoir avant son élection en 2009.
Vous écoutez la DW.
Niamey se prépare à accueillir le sommet de l'Union africaine dans quelques jours. Face au risque d'attentats terroristes, il n'est pas facile de mener une vie normale pour la population. Sur tous les axes, des forces de l'ordre patrouillent de jour comme de nuit. Une situation qui a fait réagir nos abonnés sur les réseaux sociaux. Rémi Malé.
Bien sûr, tout à fait. Pour Rifat à Niamey, dans la capitale, ce sont ces grandes mesures de sécurité qui vont pousser les terroristes à vouloir frapper. À l'en croire, pour éviter les actes terroristes, son gouvernement devrait arrêter de se mêler de près ou de loin aux pays qui sont en guerre contre les terroristes. Il rappelle justement que le chef de l'État, Mahamadou Issoufou, a dit que son pays sera un cimetière pour les terroristes. C'est ce qui a complètement déclenché les actes de terrorisme dans le pays, à l'en croire. C'est vraiment désolant à Niamey, avec partout des forces de défense et de sécurité qui sillonnent la ville, se désolent de son côté. Souleymane, lui aussi à Niamey, Mountari estime cependant qu'il s'agit d'un sacrifice qui vaille la peine pour l'image du pays, car selon lui, l'État devrait même mener des actions de sensibilisation et d'information pour expliquer aux populations le bien fondé de ces mesures. des mesures de sécurité qui, à l'en croire, devraient être appliquées même après le sommet de l'Union africaine, car il en va de la sécurité des Nigériens, écrit-il. Et puis sur la nécessité de renforcer les contrôles à la frontière pour empêcher les terroristes de pénétrer le territoire, Diakité de Bamako au Mali écrit pour conclure « Avec un simple billet de 2000 francs CFA, tu peux traverser la frontière sans être inquiété, que tu sois muni de pièces d'identité ou pas ».
En bref, au Niger, plus de 140 civils ont été tués au cours des 5 premiers mois de l'année dans la région de Diffa, théâtre depuis 2015 d'incursions du groupe djihadiste Boko Haram, selon le rapport hebdomadaire du Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies. Et au Nigeria, l'armée annonce avoir repoussé une attaque de l'organisation de l'État islamique en Afrique de l'Ouest contre la base de Goniri dans l'État de Yobe, frontalier du Niger. Une dizaine de terroristes ont été tués, 5 camions, des armes et des munitions ont été saisis. Il est 17h15 en temps universel, direction la République démocratique du Congo, où l'Organisation mondiale de la santé a repris son activité contre l'épidémie d'Ebola dans la ville de Beni, après l'avoir suspendue à la suite d'une nouvelle attaque contre son personnel médical. Sur place, les médiations se poursuivent pour convaincre les populations de ne plus s'en prendre aux équipes sanitaire. Eric Topona, bonsoir.
Oui, bonsoir Nafissa.
On en parle avec vous.
En effet, l'OMS a décidé hier de suspendre provisoirement son travail de lutte contre Ebola dans le Nord Kivu. Une manière de protester vigoureusement contre les graves agressions subies par ses personnels sur place. Mais l'activité a repris désormais, assure Margaret Harris. Elle est la chargée de communication de l'OMS à Beni.
Oui, nous avons eu une pause parce que c'est nécessaire quand il y a un incident comme ça pour évaluer qu'est-ce que la situation. Mais pas de suspension. Toutes les activités continuent maintenant à Beni.
Une partie de la population est hostile, Eric, à l'action des humanitaires. Mais qu'est-ce qui est fait pour les rassurer?
Eh bien, le maire adjoint de la ville de Beni déclarait hier sur notre antenne qu'il allait rencontrer aujourd'hui même les populations pour tenter de les convaincre de changer d'attitude. Des organisations de la société civile conduisent aussi des campagnes de sensibilisation à leur intention, comme le confirme d'ailleurs Julienne Lusenge, présidente du conseil d'administration de l'ONG Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral à Beni.
Ce que nous faisons, c'est d'abord soutenir le groupe des femmes avec les moyens financiers pour payer les tranches d'émissions dans les radios, mais aussi pour réunir les jeunes, réunir les membres des communautés pour les sensibiliser sur le danger de cette maladie et aussi le soutien au groupe de riposte. Nous faisons aussi nous-mêmes des déclarations à l'adresse de nos populations, de nos communautés, pour qu'ils acceptent de soutenir les équipes de riposte.
Voilà, Julienne Lusenge. Et puis, selon l'Organisation mondiale de la santé, des entretiens ont été organisés avec des familles jusqu'à la réticente afin de les convaincre de la gravité de la maladie. Un pari difficile, Nafissa, en raison notamment du fort taux d'analphabétisme ou de l'isolement de certaines populations dans cette partie de la RD Congo qui, comme vous le savez, est un pays continent.
Nous restons en République démocratique du Congo où au moins 19 mineurs clandestins ont été tués aujourd'hui dans l'effondrement de deux galeries dans une mine exploitée par une filiale du géant suisse du négoce des matières premières Glencore.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Rémi Malé, vous êtes toujours avec nous en studio. N'Djamena, Kinshasa et Libreville sont les villes les plus chères en Afrique pour les expatriés, selon le 25e classement du cabinet américain Mercer, une étude qui a suscité des commentaires chez nos abonnés.
Vivre à Kinshasa est un casse-tête, tout coûte cher dans cette ville alors que les habitants vivent dans une extrême pauvreté, raconte Junior, habitant de la capitale congolaise. Les prix du logement, de la nourriture et des habits s'envole sur le marché congolais, ajoute notre auditeur. Lagos au Nigeria et Luanda en Angola complètent donc le top 5 africain des villes les plus chères selon le classement Mercer, qui a comparé pour chacune des 209 villes étudiées dans le monde le coût du logement, du transport, des denrées alimentaires et d'autres articles ménagers ou de loisirs. Ce n'est pas seulement pour les expatriés que la vie est chère, nous dit sur Facebook Nadaba de N'Djamena au Tchad. Pour nous, les nationaux, même c'est très difficile de vivre à N'Djamena, style. Les maisons sont chères, les aliments sont chers et surtout les choses qui sont produites localement sont extrêmement chères et on ne sait pas pourquoi, se désole-t-il. Les prix des produits ménagers et ceux des matériaux de construction sont élevés au Togo, à en croire Justin de Caral. Pourtant, Lomé, la capitale, pointe à la 145e place du classement. On écoute à ce propos Justin.
Si nous allons dans le côté des produits ménagers, il y a un prix un peu élevé du côté des produits ménagers ainsi que dans les produits, dans les matériaux de construction. Le ciment est cher, le ciment est à 4 500 le paquet ou en globalité une tonne de 81 000. Si nous prenons aussi des engrais. L'engrais est tellement cher. L'engrais est à 14 000 francs le paquet. Pour un cultivateur, que coûte-t-il juste pour gagner à manger? Le sol étant tellement pauvre, a besoin de l'engrais pour avoir un petit rendement. Comment peut-il gagner 14 000 payer un paquet d'engrais?
Et puis New York, classé 9e, fait partie des villes les plus chères, mais nous nous battons pour tenir le coup, nous dit Lamaran, qui est dans la capitale américaine donc des États-Unis. À propos de son pays d'origine, la Guinée, il écrit pour conclure, la vie reste abordable pour ceux qui ont des revenus suffisants, mais ceux qui se débrouillent sont laissés à la merci des commerçants, transporteurs et concessionnaires cupides.
J'ajoute Rémi Mallet que sur le plan mondial, Hong Kong, Tokyo et Singapour sont sur le podium du classement des villes les plus cher. En bref, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté aujourd'hui à l'unanimité une résolution prolongeant de 4 mois sa mission de casque bleu dans la région soudanaise du Darfour, suspendant ainsi le retrait progressif en attendant de voir l'évolution de la situation à Khartoum.
Rendez-vous sur WhatsApp. Pour recevoir toutes nos infos, nous envoyez vos messages audio. Inscription gratuite sur dw.com/whatsapp.
On vous le disait en début de journal, ce vendredi démarre le sommet du G20 à Osaka, au Japon. C'est la première fois que ce pays accueille cette réunion des 20 pays les plus industrialisés du monde. Les tensions économiques entre la Chine et les États-Unis devraient être très présentes dans les échanges. Les États-Unis ont aussi exprimé leur intention d'aborder avec la Chine, la situation qui prévaut à Hong Kong, mais Pékin s'y refuse. Epiphane Adadja.
Pour la Chine, pas question d'évoquer Hong Kong au sommet du G20. Pékin estime que Hong Kong relève strictement des affaires intérieures de la Chine et martèle que le sommet ne doit pas sortir de son cadre habituel qui est l'économie. C'est ce qu'a exprimé le secrétaire d'État chinois aux affaires étrangères, Zhang Yun.
Je peux vous assurer que le G20 ne discutera pas de la question de Hong Kong et que nous ne laisserons pas le G20 décider du sort de Hong Kong. Le gouvernement de Hong Kong a pris une série de mesures pour garantir la justice et pour combler les lacunes du système judiciaire. Nous pensons que ce qu'ils ont fait est tout à fait nécessaire et le gouvernement central soutient ces mesures.
Les meneurs de la contestation à Hong Kong ont d'ailleurs annoncé vouloir poursuivre les manifestations afin de sensibiliser les pays participants au G20. Une autre manifestation est prévue pour le 1er juillet, date anniversaire du rattachement de Hong Kong à la Chine. Pour sa part, le président américain se dit préoccupé par l'ampleur que prennent les mouvements de contestation et souhaite qu'un terrain d'entente soit trouvé le plus rapidement possible entre Pékin et Hong Kong. Donald Trump.
Je le vois tout le temps, mais quand vous regardez cette manifestation, ils disent que c'était 1 million de personnes. C'est la plus grande manifestation que j'ai jamais vue. Je comprends la raison de ce mouvement de contestation. Je souhaite que tout se passe bien pour la Chine et Hong Kong.
Outre Hong Kong, le G20 sera aussi l'occasion pour le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping d'évoquer d'autres sujets, notamment le conflit commercial qui les oppose.
La revue de la presse à présent, les journaux allemands commentent essentiellement les aveux d'un certain Stefan E. Ce militant d'extrême droite a reconnu avoir assassiné un responsable politique de la ville de Kassel en Hesse. Walter Lübcke s'était montré trop accueillant à son goût avec les réfugiés. La revue de la presse est signée Sandrine Blanchard.
Die Welt ne croit pas à la théorie du loup solitaire dans le cas de ce tueur non plus. Aujourd'hui, à l'époque du numérique, les contacts des gens dépassent les frontières. Ce qui les relie, écrit Die Welt, c'est la légende des Blancs qui seraient menacés et seraient censés se défendre partout dans le monde. Le quotidien Die Tageszeitung évoque les liens possibles de l'assassin Stefan E. avec des personnages haut placés des mouvements néo-nazis. Ses aveux devraient tout changer, écrit le journal, qui espère que la chancelière et son ministre de l'Intérieur vont enfin faire de la lutte contre le terrorisme d'extrême droite une absolue priorité. La Frankfurter Allgemeine Zeitung commente la loi en discussion au Bundestag sur le don d'organes. 3 personnes meurent chaque jour dans l'attente d'un don, rappelle le journal. Chaque année, 10 000 malades espèrent une greffe. L'idée de la loi controversée serait de faire de chaque citoyen allemand un donneur par défaut, à moins qu'il n'entame une démarche pour refuser tout prélèvement d'organes après son décès. Certes, le système actuel basé sur la démarche volontaire pour devenir donneur ne rencontre pas le succès espéré. Mais le journal estime qu'il est toujours préférable à cette tutelle intrusive que veut instaurer l'État en la matière. À lire dans la Süddeutsche Zeitung, un plaidoyer en faveur d'une interdiction de la publicité pour le tabac et les cigarettes dans l'espace public. Aucun autre pays européen n'est aussi laxiste que l'Allemagne en la matière, déplore le journal, alors même que les scientifiques ont démontré depuis longtemps que le risque de commencer à fumer chez les jeunes était plus grand s'ils étaient exposés à des affiches et des publicités pour le tabac jour après jour.
Avant de passer au sport, en bref, en Éthiopie, des dizaines de membres et sympathisants du parti ethno-nationaliste, le mouvement national Amara, ont été arrêtés. Arrestation en lien avec la tentative de coup d'État samedi contre le gouvernement de la région d'Amara. C'est dans le nord-est, dans le nord-ouest du pays.
Vivez la Coupe d'Afrique des Nations de football sur la Deutsche Welle. Pour tout savoir sur le ballon rond africain, Égypte 2019, c'est du 21 juin au 19 juillet sur la Deutsche Welle.
Et pour parler de la CAN de football, c'est Sophie Serbini qui est avec nous en studio. Sophie, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous.
On commence avec le premier match de l'après-midi qui mettait aux prises le Burundi et Madagascar.
Et victoire historique pour Madagascar puisque c'est la première de l'histoire de l'île dans une Coupe d'Afrique des Nations. Les Malgaches se sont imposés 1-0 face au Burundi grâce à un superbe coup franc direct de Marco Ihalamaritra, joueur formé à Sochaux et qui joue actuellement en Belgique à Charleroi. Avec cette victoire et 4 points au compteur déjà, Madagascar se rapproche des 8e de finale puisqu'ils affronteront dimanche le Nigeria qui est actuellement leader du groupe B avec 6 points et que l'autre match opposera le Burundi qui n'a toujours pas pris de points à la Guinée qui n'en compte qu'un seul. Madagascar peut donc se contenter même de perdre pour passer en 8e de finale.
Sophie, en ce moment même, le deuxième match de la journée oppose dans le groupe C le Sénégal à l'Algérie.
Et c'est un des gros chocs de ce premier tour de la CAN 2019 puisqu'il oppose 2 des pays favoris pour la victoire finale. Chez les bookmakers, il y a 3 favoris, l'Égypte, le Sénégal et l'Algérie. Et actuellement, il y a 0-0 entre le Sénégal et l'Algérie. Pour l'instant, c'est plutôt les Sénégalais qui dominent la rencontre, même si ce sont les Algériens qui se sont créés l'occasion la plus dangereuse. C'est la seule des deux équipes qui, pour l'instant, a cadré un tir. La troisième rencontre de la journée aura lieu à 20h en temps universel. Elle opposera 2 pays voisins, le Kenya et la Tanzanie.
Le sport, ce n'est pas que la CAN, puisqu'en France, suite ce soir de la Coupe du monde féminine de football, avec le premier quart de finale entre l'Angleterre et la Norvège.
Et les deux équipes s'étaient déjà affrontées lors du dernier mondial en 2015. C'était en 8e de finale. C'est l'Angleterre qui s'était imposée de justesse 2-1. La Norvège, qui on le rappelle, est toujours privée de sa star Ada Hegerberg, qui a boycotté la compétition en raison, selon elle, de disparités entre les filles et les garçons. La Norvège va donc tenter, malgré son absence, de prendre sa revanche sur l'Angleterre. On écoute la gardienne norvégienne Ingrid Elsmet en conférence de presse d'avant-match.
Téléchargez notre application dw.com/appli.